Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Allez, à votre santé, et je vous disais que la Dream Team est là en direct le lundi de Pâques. Alors la Dream Team, je vous la présente, c'est Ali Habibi, bonjour Ali.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Régional de l'étape, mais Ali, vous êtes entre deux, hein, puisque vous êtes entre le Bourget et le Bourget.
C'est ça.
Merci d'être avec nous, vous serez tout à l'heure au Bourget.
Oui, j'y retourne cet après-midi.
Bien, vous faites une conférence cet après-midi ?
Non, j'en ai fait assez hier.
C'est vrai ?
Oui.
Alors vous y allez pour quoi ? Alors là, vous y allez pour le plaisir, en fait.
Non, j'y vais pour par rapport à toutes les personnes que j'ai pas pu voir ou à qui j'ai pas pu répondre et que je vais rencontrer cet après-midi pour échanger avec eux.
Bien, pour tous ceux qui veulent faire deux choses, enfin joindre l'utile à l'agréable, vous pourrez profiter de Ali Habibi pour une Omra. Alors c'est très bientôt, ça vous laisse encore un petit peu le temps de vous organiser. C'est du 3 au 14 mai.
C'est
quand même une Omra thématique. On rappelle la thématique de cette Omra.
C'est cheminer vers Dieu, seul, en couple et en famille. Donc avec quand même, ça sera un peu plus axé sur le couple, mais on prendra en compte toutes les personnes qui viendront seules.
Voilà, à quelques heures du Ramadan, vous rentrerez, hein, du 3 au 14 mai.
Un jour ou deux jours avant. Quoi, deux jours avant, je pense. Si les dates prévues sont exactes, on sera là deux jours avant le Ramadan. Donc, ça sera une bonne préparation pour le Ramadan.
Pour vous inscrire, donc, vous allez sur la page Facebook de Ali ou sur le site aussi.
Sur le site habibi.fr, vous avez un article sur ce voyage avec un lien d'inscription pour toutes les personnes intéressées, tous les renseignements qui sont indiqués dans l'article, avec le numéro de téléphone aussi si besoin.
Bien, s'il vous reste encore un peu de sous, vous pouvez les donner à Maximilien Bachelard. Bonjour Maximilien.
Bonjour.
Bah oui, vous êtes docteur en psychologie et psychothérapeute et bah oui, j'ai vu que vous organisiez une cagnotte.
Oui, exactement.
Vous collectez vous aussi.
Oui, mais sauf que l'argent, je ne vais même pas le percevoir. Il va partir directement pour une association qui s'appelle le SEL, Service d'entraide et de liaison, qui est une association protestante qui a pour objectif d'aider les populations en difficulté par des forages, par le fait de pouvoir amener de la nourriture à manger et travailler directement auprès de certains villages. Me semble très intéressant. Alors, comme je le dis dans le petit message que je vous ai envoyé,
très gentiment, déjà, vous allez courir en plus pour la bonne cause. Courir, c'est le tour du pâté de maison. Hein.
Alors, l'estimation de mon poids à perdre, c'est 6 à 8 kilos, et j'espère que d'ici juin, ils seront bien perdus. Et la course, c'était 2, 6 ou 10 kilomètres.
Donc, vous avez pris combien ?
6 kilomètres, c'est pas grand chose.
Ali, ça vous dit ?
Mais c'est la préparation qui est intéressante, parce que normalement, je devrais avoir perdu tout ça grâce à ça. Mais
je l'encourage.
6 kilomètres, c'est pas
grand chose.
Ça, on peut vous encourager, Maximilien.
J'aurais bien aimé qu'Ali vienne avec moi, mais il est très occupé.
Merci de me trouver une excuse pour ne pas courir.
Ouais, exactement.
Ah non, ça j'aimerais bien. Alors ça, Ali, je suis preneur.
Mais vous savez, le pire, Philippe, dans l'histoire, c'est que plus jeune, j'étais un petit athlète. Je courais beaucoup. Et j'avais une très bonne endurance. Donc je faisais des crosses, des petits marathons, etc.
Qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous voulez qu'on en parle?
Non, mais il s'est passé quelque chose.
C'était quand à lire,
hein. Ça remonte et tout s'est du jour au lendemain, ça s'est arrêté.
C'est un super sujet ça. Finalement, on a tous autour de nous des gens qui ont été des sportifs, même des...
Moi, j'étais pas non plus un sportif de haut niveau, mais j'aimais le sport, j'en faisais beaucoup, courais très souvent et je faisais beaucoup de foot aussi. Mais aujourd'hui, c'est.
Mais comment on décroche en fait finalement? Comment est-ce qu'on passe de cet état où
le cerveau a pris le dessus sur mon corps? Il prend toute la place maintenant.
C'est ça, mais tu rigoles, mais il y a quelque chose comme ça où quand on investit trop l'intellect, il y a un moment où on peut délaisser le corps.
Ce qui est dommage, hein, parce que c'est un déséquilibre, c'est pas bon.
Mais l'hygiène de vie joue beaucoup aussi, c'est-à-dire que quand on doit courir entre deux ou trois cours, conférences et ça, on n'a plus le temps, donc on avale un sandwich, deux sandwichs, à la fin de la semaine, on en a avalé neuf, et puis.
Non, je suis pas d'accord. Ça n'existe pas. L'expression de "je n'ai pas le temps", elle n'existe pas.
Oui.
Non, je ne me donne pas le temps pour. C'est différent.
On se donne, évidemment. Ouais.
Parce que c'est vrai qu'il y a des, je connais des collègues ou des personnes qui font autant voire plus de conférences que moi et qui ont besoin eux de courir pour pouvoir être efficace. Justement efficace dans leur conférence. Alors que moi, si je cours avant la conférence, pas sûr de me voir à la conférence.
Ouais. À l'heure, vous voulez dire à l'heure?
De me voir tout court.
Vous n'êtes pas obligé d'aller au Bourget à pied, Alice.
C'est vrai que pour éviter le sandwich, j'ai imposé à Ali une pause repas ce midi.
Voilà.
Donc, juste avant qu'il retourne.
On verra ce qu'on mangera.
Bien.
Oui, je crois.
Ils sont chauds. Psychothérapie ou psychiatrie, de quand ça fait souffrir à cet urgent? Psychiatrie, c'est un gros mot presque.
Exactement, c'est vrai que...
C'est très connoté finalement. Déjà, psychiatre, psychiatrie, ça fait fou.
Ça fait peur, d'autant que la psychiatrie en France, malheureusement, n'est pas toujours très belle sur le plan hospitalier. On a encore récemment, au niveau de l'État, a été dénoncé des conditions de vie qui étaient similaires à ce qu'on peut trouver en prison. Donc évidemment, je ne vais pas me mettre tous les psychiatres sur le dos, ce n'est pas le cas partout en France, mais on est quand même un pays pas mal en retard.
Et ce n'est pas forcément de leur faute.
C'est pas forcément de leur faute.
D'ailleurs.
Ils font ce qu'ils peuvent, mais alors vous arrivez dans un service de psychiatrie avec le lino brûlé, les cigarettes qui ont été brûlées par terre, des endroits qui sont vraiment pas terribles, et puis au final un personnel qui souffre beaucoup, et pas du tout l'image d'un personnel qui s'amuse à faire souffrir les gens. C'est-à-dire que tout le monde souffre parfois tout autant que les patients.
D'ailleurs, ce sera un sujet à part entière, hein, la souffrance du personnel médical dans le milieu hospitalier, que ce soit les médecins ou surtout les infirmières, c'est horrible pour elles. Mais ça sera un sujet d'ailleurs à traiter.
Avec des membres d'ailleurs qui seront invités à le faire. Alors psychiatrie, est-ce qu'il y a des gens qui vont en psychiatrie d'eux-mêmes, ou est-ce que finalement les gens ils arrivent en psychiatrie parce que parce que finalement c'est l'entourage.
Parce que la psychiatrie, ça va être justement le service qui va être justement dans l'hôpital. On peut aller voir un psychiatre sans aller à l'hôpital. Tu peux aller voir un psychiatre qui est en libéral, par exemple.
Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont voir des psychiatres d'eux-mêmes?
Oui. Alors, justement, la question m'est venue de cette thématique parce que j'ai beaucoup de gens qui passent me voir après être venus voir un psychiatre. Mais moi, les psychothérapeutes, on ne fait pas le même boulot que les psychiatres. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on parle un peu des indications. Mais oui, les gens vont voir des psychiatres. Et moi, il m'a semblé que les gens allaient voir les psychiatres pour deux raisons. D'une part, c'est possiblement remboursé. Donc les gens y vont plus facilement.
Parce que ce sont des médecins.
Voilà, ce sont des médecins spécialistes.
Les 22 euros, je crois, 24, je ne sais plus.
Exactement. Et puis bon, parfois il arrive que le psychiatre se débrouille pour que ce soit un peu plus remboursé que prévu. Ça, c'était une autre thématique. Et on se dit que ça fait plus sérieux, en fait. Puisque c'est un médecin, c'est sérieux.
Ça rassure.
Sauf que très souvent, les gens que je croise sont allés voir le psychiatre pour des raisons qui ne concernent pas. Mon enfant ne va pas à l'école, je suis allé voir le psychiatre. Bon, ok. Le psychiatre, il dit, quand il est honnête et qu'il travaille bien, il dit, moi, c'est pas de mon ressort. Voilà.
Vous avez quelques psychiatres qui peuvent proposer parfois des thérapies quand ils sont formés mais pas tous. C'est vrai que la plupart d'entre eux, ils sont là pour essayer de voir les grosses pathologies, essayer d'accompagner ou de traiter à ce niveau-là, de donner des médicaments par rapport à ces pathologies-là. Et quand vous avez besoin d'une thérapie ou quand vous avez parfois des problèmes, on va dire, moins graves ou moins pathologiques, vous n'avez pas forcément besoin de voir le psychiatre, voire même pas du tout.
Mais il faut bien différencier le métier et les fonctions. C'est-à-dire que psychologue, ça ne vous rend pas psychothérapeute. Psychiatre, ça ne vous rend pas spécialement psychothérapeute.
Exactement.
Non plus. Il y en a un qui peut prescrire, c'est le psychiatre, des médicaments, et qui est amené à rencontrer des pathologies lourdes, et le psychologue qui, souvent, est amené à rencontrer des pathologies un peu moins lourdes.
Alors, psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, vous imaginez quand même que dans la tête des gens, parfois, ça fait beaucoup de psy.
Voilà.
Donc finalement, vous allez voir quoi? Quand on a mal aux dents, vous voyez, c'est simple.
Quand on est dans...
On va chez le dentiste.
Vous
voyez, donc...
Quand on a quelque chose de très grave, où il y a un risque imminent, il y a une urgence, on va aller voir un psychiatre. Qui lui va pouvoir apaiser le plus rapidement possible une souffrance, un état anxieux, une dépression sévère, des hallucinations, des absences, etc. Il y a nécessité soit d'une injection, soit d'un médicament pour apaiser dans un premier temps. Maintenant, tous les psychiatres savent pas faire de la psychothérapie, tous les psychologues non plus. Et la question, c'est de savoir, qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois que c'est apaisé.
On peut revenir sur les cas d'urgence.
Ouais.
Donc là, vous m'avez parlé de cas d'urgence, mais est-ce que finalement, encore une fois, le malade qui souffre d'une telle pathologie se rend compte qu'il doit aller.
La conscience, pas forcément.
Parce que quelqu'un qui souffre de dépression, d'absence, voilà.
Après, c'est souvent soit l'entourage qui va faire intervenir ou qui va intervenir. Ça peut être aussi d'autres services, c'est-à-dire que si la personne décompense ou il lui arrive une certaine... il a un comportement dangereux, par exemple, dans la rue, ça peut être les pompiers ou la police qui font intervenir, vous voyez, qui peuvent emmener la personne. Mais ça, c'est des cas, on va dire, un peu extrêmes.
Donc c'est quoi un comportement dangereux? Parce que justement, vous m'avez fait lire, Maxime Vignien, quelque chose, vous disiez que finalement, les gens étaient plus dangereux pour eux-mêmes pour les autres.
Bien sûr.
Déjà, d'une manière globale, il faut savoir que la dangerosité et voire la criminalité dans la population touchée par la psychiatrie est moins importante que pour ceux qui n'ont pas de problème psychiatrique.
Exactement.
Si ça vous paraît, je reformule, vous avez beaucoup moins de criminels schizophrènes que de criminels qui sont comme vous et moi. Contrairement à l'idée reçue, quand on est dans des pathologies psychiatriques lourdes et graves, on est souvent plus facilement pétri d'angoisse et plus amené à rester avec soi-même et à lutter contre ses angoisses qu'à aller attaquer les gens dans la rue.
Donc on est moins dangereux.
Beaucoup moins dangereux.
J'ai vu que les psychopathes, par exemple, ils souffrent pas de maladies psychiatriques ou mentales, les psychopathes.
C'est-à-dire que là, ça concerne plutôt la personnalité. C'est quelque chose de stable qui n'est pas en crise. La personne a, alors je vais dire un peu simplement vulgairement, un câblage émotionnel un peu particulier qui fait qu'elle est très détachée elle n'est pas connectée à son empathie, elle n'est pas forcément connectée à la souffrance qu'elle peut générer, mais on n'est pas dans des crises graves, la personne est faite comme ça.
Mais ce qui veut dire quoi? Que c'est pas une maladie mentale?
Alors, comment on pourrait différencier? On pourrait dire que soit vous avez une maladie qu'on pourrait réguler, soit vous avez une personnalité. Et une personnalité, ça se régule pas à coup de médicaments.
C'est ça.
Les psychiatres savent pas trop quoi faire des troubles de la personnalité parce que on sait pas comment réguler ça en fait. Et c'est accessible quand on a de la chance à de la psychothérapie. C'est quelque chose qui va devoir se construire. Et par définition, les gens qui ont des troubles de la personnalité souffre pas forcément, mais l'entourage veut souffrir. Quelqu'un qui est très narcissique, par exemple, qui a besoin d'être à chaque fois admiré, applaudi, qui se fout complètement du bien-être de son entourage et qui peut les écraser indirectement sans s'en rendre compte, il en souffre pas, mais sa femme n'en peut plus, par exemple, ou son entourage au boulot.
Vous avez une personne qui est bipolaire et qui peut souffrir de sa bipolarité. Ou quelqu'un qui est justement dans une forme de schizophrénie, qui va souffrir de ça, ou qui peut se mettre en danger lui-même par rapport à ça. Vous voyez, donc c'est vrai que par rapport à la distinction, elle est bonne, parce que les personnes qui ont des troubles de la personnalité, en règle générale, ils vont pas forcément aller consulter pour eux-mêmes, parce que tout va bien pour eux, en fait. C'est pour les autres pour qui ça ne va pas. Alors que des personnes qui vont avoir des pathologies lourdes peuvent être amenées à consulter eux-mêmes s'ils prennent conscience et si la douleur, si la souffrance est trop grande et qu'ils arrivent à demander de l'aide, comme ils peuvent ne pas forcément venir demander de l'aide. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, c'est plus le psychiatre qui vont aller voir.
La question de la conscience des troubles n'est pas toujours très facile. Ouais, et puis, simple. On peut en avoir conscience, mais se dire que ça ne va pas servir à grand-chose de venir travailler ça. Quand quelqu'un a des absences, il ne s'en rend pas compte.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle des absences?
Alors là, j'utilise un terme générique, mais quelqu'un qui, pendant une minute, se met à dire des choses un peu incohérentes, et puis d'un seul coup, vous regarde une nouvelle fois, et puis ne sait pas ce qu'elle vient de dire pendant une minute... elle va pas vous dire, il faut que j'aille voir un psy, puisqu'elle en a pas conscience. Et donc là, ça va demander de faire un diagnostic auprès d'un neurologue, d'un psychiatre et d'un psychologue pour savoir un peu qu'est-ce qu'on a en face de soi. Est-ce que la personne fait une crise d'épilepsie, par exemple? Est-ce qu'elle est en train de faire un AVC? Est-ce qu'elle a un problème psychiatrique? On sait pas encore pour l'instant.
Ça, c'est une urgence.
Ouais, ça peut être une urgence, clairement. Quand on a des absences comme ça, je pense que c'est important. Moi, j'ai pu rencontrer quelqu'un il n'y a pas très longtemps par rapport à ça. On n'était pas dans une urgence, mais pourquoi on n'était pas dans une urgence? Parce que la personne a fait des évaluations médicales auparavant et on n'a rien détecté sur le plan organique. Donc là, à ce moment-là, on est en train d'avancer dans le diagnostic et il n'y a plus à s'inquiéter. Mais si quelqu'un vous fait des trucs bizarres, si vous, là, vous commencez à me faire des chansons un peu étranges et à rire bizarrement, je vais me dire, oula, peut-être qu'il est en train de, il a quelque chose qui va pas aller, il est en train de bugger au niveau du cerveau et vous êtes...
Je peux vous faire des chansons bizarres, mais...
Voilà.
Qui viennent des années 80 ou 70, vous voyez.
Mais
ça, je peux.
Peut-être que, voilà, si vous vous rendez plus compte de ça et que vous, vous mettez à tout casser d'un seul coup, il va falloir passer aux urgences psychiatriques pour vous faire passer un scanner ou IRM parce qu'il y a peut-être un truc qui va pas.
Pour essayer de voir rapidement ce qui se passe, en fait. C'est juste pour comprendre ce qui se passe et voir s'il y a une urgence à ce moment-là.
C'est la notion de dangerosité qui est importante pour vous ou pour l'autre.
Voilà, mais l'absence, c'est pas Alzheimer, par exemple.
Ah non, mais l'absence dont je vous parle, c'est un signe en bout de course. Mais on peut avoir une absence pour plein de raisons. Je suis en train de réfléchir à quelque chose, ou je suis déprimé, j'arrive plus à me concentrer, ou alors d'un seul coup, j'ai un bug dans le cerveau, je suis en train de faire une crise d'épilepsie.
Je peux être juste très soucieux de quelque chose.
Je suis très soucieux.
Je me déconnecte un peu du moment présent avec d'autres.
Voilà, ou j'ai une hallucination, je suis en train d'écouter une voix qui est en train de me parler. En fait, c'est un premier signe d'appel et après, il faut pouvoir fouiller ça. Quand ça arrive de temps en temps, c'est pas assez. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est le boulot aussi des collègues psychiatres ou psychologues d'aller faire fouiller et de voir qu'est-ce qu'il y a. Voilà.
Donc, Les autres cas d'urgence, pour qu'on on soit bien au clair avec ce qui doit amener à consulter en urgence.
Un état d'agitation, des hallucinations auditives, visuelles, la personne entend des choses qu'on n'entend pas. On a ça par exemple.
La paranoïa, une paranoïa excessive, c'est-à-dire que si comme la personne commence à dire je dois me protéger parce qu'on me veut du mal et que vous la voyez qui commence à s'armer pour pouvoir se protéger et qui alors qu'il y a personne qui lui veut du mal, ça peut être aussi une urgence parce qu'il peut être dangereux pour lui déjà et pour d'autres.
Des idées suicidaires aussi. Oui. Alors bon.
Alors voilà. Ça c'est important. Alors, les idées suicidaires. Pourquoi déjà c'est quelque chose qu'il faut toujours pour l'entourage prendre en compte.
Alors il y a une étude qui est très connue chez les psys qui nous dit que quand le psychiatre ou le psychologue aborde le sujet frontalement avec la personne en disant vous êtes déprimé, est-ce que vous avez déjà pensé à mettre fin à vos jours, etc. Les gens ont tendance à moins passer à l'action. Pourquoi ? Parce que en fait le fait de pouvoir parler un petit peu du ressenti permet de dégonfler un peu le ballon de baudruche. Et c'est le boulot du psy après par la suite d'essayer de voir si on est dans quelque chose de concret ou si on est dans quelque chose de l'ordre du ras-le-bol. Parce qu'on en a, on a tous ressenti ça une fois dans notre vie où on s'est dit franchement je préférerais disparaître parce que je suis fatigué, j'arrive plus à gérer ma vie.
J'en ai marre.
Voilà. Mais il faut pouvoir différencier quelqu'un qui a un plan très concret, qui est déjà en train d'attendre et qui va bientôt passer à l'action, d'une personne qui a simplement un malaise qu'elle n'arrive pas à attraper. Ça, c'est le boulot du psy. Mais en tout cas, nous, on sait cliniquement que plus on aborde ces choses-là, moins on les évite, plus la personne va pouvoir attraper ses émotions et en faire quelque chose. Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué quand on a envie d'en finir, de se laisser, dominer par cette sensation sans pouvoir l'attraper. Parce que les gens se font peur eux-mêmes d'ailleurs, ils savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire, ils savent plus s'ils ont une simple plainte ou s'ils ont peur de craquer, et le psy doit pouvoir accompagner ça. Ouais.
Ali Habibi, Maximilien Bachelard sont avec nous, si vous voulez, tiens, profitez-en, si vous voulez interroger la Dream Team qui est là en direct au 01 53 48 3000, vous êtes les bienvenus, 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, c'est vrai que vous avez beaucoup de chance, hein, puisqu'une fois par mois, vous en avez deux pour le prix d'un. Ali Habibi et Maximilien Bachelard vous donnent rendez-vous un lundi par mois entre midi et 13h. Profitez-en et vous pouvez les interroger. Une émission que Maximilien, vous avez choisi d'appeler Psychothérapie ou Psychiatrie, de quand ça fait souffrir à cet urgent. Alors, on a Chamsa qui nous appelle de Bondy et qui attend. Chamsa, bienvenue. Alors, attendez. Chamsa. Ah ben. Oui,
vous êtes. Allô.
Voilà, bienvenue. Je voudrais pas écorcher votre prénom, si vous voulez bien nous le rappeler.
Oui, alors Chamsa.
Chamsa, voilà.
Ça veut dire soleil en arabe.
Parfait.
Voilà. Bonjour, Chamsa.
Vous êtes le bienvenu et en plus, vous allez mettre du soleil dans notre journée.
En plus, il vient d'arriver là. On a une petite éclaircie.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Chamsa, aujourd'hui?
Moi, j'avais une question, en fait. J'écoutais l'émission, enfin, je viens d'écouter l'émission, hein. Je veux dire, j'ai raté le début. Moi, je voulais savoir, en fait, comment, par expérience personnelle, j'avais une sœur qui était hospitalisée, qui est décédée, paix à son âme, justement par suicide. Et je voudrais savoir, parce que, au tout départ, quand elle a commencé à faire sa dépression, bon, comme il disait, monsieur, comment il s'appelle
Maximilien.
Psychiatre. Monsieur, voilà. Maximilien.
Il n'est pas psychiatre.
Pas psychiatre, mais je sais plus, psychanalyste ou psychologue.
Psychothérapeute.
Ouais. C'est pas bien grave.
Parce que j'ai raté le début,
aucun
mais en
problème.
Fait, j'ai pris l'émission en cours. Donc,
nous aussi. Rassurez-vous. Tout va bien.
Je disais que, bon, c'est vrai qu'au départ, ils sont un peu incohérents. Moi, ma sœur, elle a commencé à être incohérente parce qu'elle a subi un choc émotionnel. C'est ça qui a déclenché, en fait, sa schizophrénie. Enfin, on a trouvé sa pathologie après par la suite. Mais ça a été dû à un choc psychologique. Et ensuite, elle a été internée en psychiatrie à Villers-Vrains, à Saint-Denis. Moi, ce qui m'a choquée, en fait, c'est que dans ce centre psychiatrique, on mélange toutes les pathologies. Légères, sévères. Et je comprends pas. Ceux qui se retrouvent avec des malades mentaux, sévères, je sais pas comment on appelle ça, mais je veux dire, des personnes qui sont vraiment dangereuses pour elles-mêmes et dangereuses pour les autres, se retrouvent avec des personnes qui ont des dépressions passagères ou voire légères au départ, hein, qui peuvent s'avérer pires après avec le temps. Mais je comprends pas qu'on puisse mélanger ici en France, avec tous les moyens qu'on a, qu'on puisse mélanger toutes ces personnes, en fait, toutes les pathologies confondues. dans le même centre psychiatrique. Alors qu'en plus, ces gens-là, comme ma sœur, elle avait des enfants. Il y avait des unités mère-enfant. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse mélanger toutes ces pathologies-là dans le même centre psychiatrique. C'est pas normal.
On n'a pas... Alors, c'est Maximilien. On n'a pas tant de moyens que ça en psychiatrie. On a même de moins en moins. Donc, il faut savoir que la psychiatrie française... tend à aller vers un système à l'américaine, c'est-à-dire on fait en sorte que les gens soient suivis en ambulatoire le plus possible, qu'on hospitalise le moins, et que les gens se débrouillent de plus en plus par eux-mêmes, ce qui fait que quand vous allez aux États-Unis, vous en voyez partout des gens qui vont pas bien dans les rues, et en France, ça commence à être de plus en plus le cas. Donc on a de moins en moins d'argent, mais bien évidemment, l'idéal, ce serait de pouvoir ne pas mélanger quelqu'un qui a un problème d'alcool, quelqu'un qui est complètement déprimé, quelqu'un qui entend des voix, quelqu'un qui devrait aller en prison.
Voilà.
Et exactement, c'est clair et net, et c'est bien angoissant d'ailleurs quand on se retrouve dans ce genre d'endroit, parce que tout est un peu mélangé. Mais comme vous le dites vous-même, vous aviez parlé d'une dépression, puis après pourquoi pas d'une schizophrénie après coup. Donc la difficulté, c'est qu'en psychiatrie, on reçoit des gens qui ne vont pas bien et on découvre parfois au fur et à mesure un petit peu qu'est-ce qu'ils ont vraiment. Donc c'est entre guillemets très compliqué de pouvoir dès le départ bien dispatcher.
Et en plus, d'autant plus, je voulais rajouter quelque chose, c'est que nous, les familles, on n'est pas préparés à ce genre de choses.
Oui. Alors, la préparation, c'est vrai que c'est pas évident.
C'est quand on y va.
On nous explique pas comment se comporter, en fait. Comment réagir, comment se comporter face à ce genre de pathologie, parce qu'on connaît pas ça, c'est tout nouveau. Donc, du coup, je trouve que la communication entre la famille
et le corps médical
et l'unité psychiatrique et tout ça, les médecins, les psychiatres, tout, en fait, se fait pas. Moi, je trouve qu'on m'a pas sollicité, on m'a pas proposé en fait de rendez-vous pour pouvoir me
j'ai pas été impliqué
à ça et comment réagir à ça. Et je trouve que la psychiatrie, c'est mal géré en France. C'est très mal géré.
Clairement.
C'est-à-dire pendant l'hospitalisation, le après aussi, le suivi du CMP. Enfin, moi, j'habite à Bondy, je vous jure, on en a plein des gens comme ça, des pauvres. On en a plein. Parce que c'est des gens qui sont laissés à l'abandon. Ils habitent seuls. Or, ils ne devraient pas habiter seuls. Ils devraient habiter dans des structures thérapeutiques, comme foyer thérapeutique. Il n'y en a pas assez en France. Donc, on leur donne un logement social. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils arrêtent leur traitement parce que le CMP, ils viennent une fois de temps en temps, des fois ils oublient, ils viennent même pas. Donc ces gens-là, on les retrouve dans la rue. Comme vous disiez tout à l'heure, il y en a qui sont dangereux pour eux, il y en a qui sont aussi dangereux pour les autres. Donc moi, je pense que la psychiatrie en France, elle est mal. Et quand j'ai psychiatrie, c'est-à-dire non, l'handicap, parce que ce soit pour l'autisme, pour les problèmes mentaux, problèmes de troubles de comportement, peu importe. On n'aime pas, en France, on n'aime pas les handicapés. Parce qu'on ne construit pas assez de structures, que ce soit pour les autres.
Alors, on n'aime pas la différence, peut-être tout court.
On n'aime pas l'handicap. La France ne met pas assez les moyens pour l'handicap. Il n'y a pas assez de structures pour les autistes, il n'y a pas assez de foyers thérapeutiques pour les malades mentaux. Vous voyez ? Et alors qu'on a les moyens, on est en France.
Alors, la question de moyens, est-ce qu'on a les moyens encore ? Ça, c'est une question.
C'est-à-dire qu'objectivement, on n'a pas les moyens, mais après, c'est pas moi qui tiens le portefeuille. Donc, il y a eu des choix avant qui ont été faits,
on a pris l'argent pour l'utiliser autrement, mais je suis sûr qu'on a l'argent pour, mais sauf qu'en France, on n'aime pas l'handicap. Voilà, peut-être que c'est pas intéressant, que ça rapporte rien, ou que on... Je sais pas, c'est bizarre. Moi, je trouve que c'est quand même pas normal que des autistes, par exemple, doivent aller en Belgique.
C'est la journée mondiale de l'autisme, d'ailleurs, aujourd'hui.
En plus, parce que moi, j'ai ma sœur, figurez-vous, qui a un enfant qui est autiste. Autiste sévère. Donc, c'est pour ça que je parle de ça aussi en même temps. Parce que ça fait partie de l'handicap, comme la maladie mentale fait partie aussi de l'handicap. C'est qu'en France, dommage, on met pas assez d'argent sur ça.
L'autisme, c'est une maladie mentale ?
Oui, aussi, oui.
Attends, c'est une question que je pose à nos deux spécialistes. J'aime ça parce qu'il n'y a pas
de...
C'est pas du tout ma spécialité, l'autisme, mais j'aurais tendance à pas voir ça comme un trouble psychiatrique à part entière, mais plutôt comme un trouble du développement.
C'est des troubles psychomoteurs. Hein.
Et voilà, c'est un trouble du développement.
Et dû à la dépakine, en plus. Ma sœur, elle a eu un enfant autiste dû en fait, à la prise de la dépakine parce qu'elle fait des crises d'épilepsie. Donc après, ça, c'est un autre sujet, mais pour en venir au départ du sujet, sujet, c'est-à-dire la maladie mentale. Moi, je vous disais qu'en fait, je comprends pas qu'en France, on puisse pas les aider mieux que ça.
En tout cas, votre interrogation est pertinente et Maximilien vous a répondu là-dessus. Alors, il y a beaucoup d'appels. Merci en tout cas, Chemsa, de votre intervention. Linda est avec nous. Linda, bienvenue.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Linda.
Bonjour Linda.
Alors,
bonjour.
Moi, je voulais intervenir parce que comme la précédente personne que je viens d'écouter, moi, je trouve que le domaine médical n'aide pas du tout les familles. Alors, pourquoi? Parce que j'ai ma sœur également qui s'est suicidée, du moins qui est morte à force de plusieurs tentatives de suicide. Et je suis même en train d'envisager de plainte. Pourquoi? Lorsque quelqu'un qui crie au secours, une famille qui crie au secours et qui dit voilà, ma sœur, elle a telle envie, elle fait ça et ça à la maison, aidez-nous. On n'a pas su nous entendre, même au niveau des psychiatres, même au niveau des médecins, le nombre de médecins qu'elle a pu voir, le nombre de fois qu'elle a été hospitalisée, eh bien, on n'a pas eu d'aide. On n'a pas eu d'aide. Et ma sœur s'est tuée à petit feu jusqu'au jour où vraiment elle a ressenti peut-être qu'elle n'avait plus envie de se suicider. Elle m'a demandé donc de la soutenir quand elle était à l'hôpital. Et malheureusement, elle s'est plainte de douleurs au ventre. Je l'ai signalée dans l'hôpital. Et on m'a dit, bah, écoutez, ce n'est pas grave. Là, elle a un examen de prévu lundi, donc ça ira. On était vendredi. Malheureusement, ma sœur, elle a fait une... comment vous dire ça, s'est éclatée dans son ventre. Elle a fait une...
péritonite.
Pas une péritonite, c'est un autre nom.
Enfin bref,
c'est le tube digestif qui a éclaté. Donc, elle a perdu énormément de sang. Mais il était trop tard.
Ouais.
Ma sœur a passé un mois à la suite de ça dans le coma pour enfin nous dire un jour, on nous convoque en nous disant, écoutez, on a tout fait. Maintenant, on va la débrancher. Donc, au jour d'aujourd'hui, je me demande si le domaine médical fait ce qu'il faut. Et là, j'en doute, parce que là, ce n'est même pas une question de moyens. Là, c'est une question d'humanité. C'est une question de l'écoute de famille. Une personne qui veut se suicider, OK. Mais est-ce qu'on cherche à l'en sortir? Au jour d'aujourd'hui, j'en doute.
Alors... on va en rebondir sur ce que dit Linda. Déjà, comment est-ce qu'on prend en charge et comment est-ce que le domaine médical prend en charge une personne qui exprime clairement l'envie de se suicider?
Quand on est dans un service de psychiatrie, la personne est interrogée seule. Le mieux, souvent, au bout d'un moment, c'est de rencontrer également la famille et puis de proposer soit une médication, soit une mise à l'écart de tout ce qui pourrait la mettre en danger temporairement. Il faut, la psychiatrie est quelque chose de très compliqué. Imaginez que quelqu'un arrive tout agité dans un service, vous pouvez pas lui donner un médicament pour le calmer. Alors, vous allez me dire, mais alors, comment on fait? On est obligé de mettre les gens dans une chambre d'isolement. Et vous allez me dire, mais quelle inhumanité. Oui, mais vous ne savez pas pourquoi la personne est agitée. Donc, si elle vient de prendre des drogues, vous ne pouvez pas lui en rajouter une autre parce que vous risquez de la tuer. Donc, vous voyez, la question de la responsabilité est très importante en psychiatrie. Vous ne savez pas pourquoi les gens sont agités ou complètement dépressifs. Peut-être qu'ils ont essayé de faire une tentative de suicide médicamenteuse. Et donc, vous êtes bien obligé d'entourer quelqu'un et d'attendre que les choses s'apaisent un minimum. Au bout de quelques temps, vous pouvez proposer une médication. Et il est vrai que la psychiatrie française a toujours eu un peu de mal à intégrer la question de la famille. Pour reprendre un peu le témoignage de tout à l'heure, quand on sort, on n'a pas forcément d'indication et la famille est parfois complètement démunie. Parfois même, elle n'a même pas de diagnostic. Parfois même, on ne donne même pas le diagnostic à la personne elle-même. Après, il ne faut pas s'étonner que les gens ne prennent pas leurs médicaments s'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Maintenant, c'est très compliqué de dire à quelqu'un, écoutez, vous êtes schizophrène, puis à faire prendre vos médicaments. Parce que sinon vous allez halluciner. D'autant que les hallucinations parfois sont très agréables. Donc les gens, entre se sentir morne et presque au bord du suicide ou avoir des hallucinations sympathiques et voluptueuses et agréables, préfèrent finalement ne pas prendre leur traitement. Donc c'est pas si simple que ça.
Merci Linda pour votre appel. Sarah est avec nous. Bienvenue Sarah.
Bonjour monsieur, bonjour.
Oui, merci. Bienvenue Sarah, on vous écoute.
Écoutez, moi je suis dépressive.
Oui.
Il y a quelques temps, après le décès de mon frère, après ma mère, tout ça, ainsi de suite. Et bon, on m'a jamais dit que j'étais bipolaire. Et mon médecin psychiatre est parti du jour au lendemain, il y a pas quelques mois là. Et donc j'ai dû chercher par moi-même un psychiatre. J'ai regardé sur internet, j'ai trouvé un psychiatre et tout, attendez, ça résonne. Et en fait, ce psychiatre, quand je suis allée le voir, déjà à la base, il me dit mais vous faites quoi, vous voulez quoi? Alors, je lui dis, bah, écoutez, monsieur, moi, comment vous m'avez trouvé? Je lui dis, bah, j'ai regardé sur l'annuaire ou internet, je vous ai trouvé, c'est tout. Je savais pas où me diriger, si vous voulez. Et moi, si vous voulez, le pavillon où j'étais, ils ont envoyé mon dossier. Et il m'a reçu, franchement, honnêtement, comme si j'étais une vaurien qui était foutu. Quelqu'un qui était foutu. Il m'a dit, bah, attendez, votre dossier, il pèse très lourd, je ne sais pas où le mettre, tellement qu'il n'y a plus de place, il m'a dit. Donc, moi, ça m'a déprimé encore plus. Il me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, bah, j'ai perdu ma mère, là, il y a 9 ans, j'ai perdu mon père, excusez-moi, c'est son même. Et je viens de perdre mon chien, moi, si vous voulez, c'est des trucs, voilà, comme ça. Il me dit, mais tout le monde perd quelqu'un, hein. Mais méchamment, vous voyez, monsieur. Et il me dit, mais vous êtes bipolaire. Je lui dis, pardon. Je lui dis, mais attendez, j'ai demandé à ma psy il y a des années, elle m'a jamais dit ça. Donc il me dit, ben moi je vous le dis. Et maintenant, vous êtes perdu, il m'a dit. Voilà, comme ça, texto.
C'est pas
vous
forcément parole d'évangile, hein, vous savez. D'autant que si on vous a pas posé de questions bien précises, on fait pas des diagnostics
D'après le dossier. On me donnait du Prozac.
Alors, le dossier ne suffit jamais à faire un diagnostic, madame. En tout cas, il faut que vous le sachiez, que ce soit un psychiatre ou que ce soit le président de la République, c'est pareil, on s'en fiche. Mmh, un diagnostic psychiatrique, ça peut pas se faire comme ça en lisant un dossier. Moi, je peux pas vous diagnostiquer, par exemple, à la radio, c'est pareil. Voilà. Et ben, c'est la même chose en lisant votre dossier.
Pas comme ça.
Ça suffit pas.
Voilà. Par contre, Sarah, quel est votre rapport aujourd'hui avec ce psychiatre?
Non, j'y suis allée qu'une fois, il m'a donné le traitement. Je peux vous dire le traitement qu'il m'a donné? Parce que moi, je me sens dépressive, mais pas bipolaire, si vous voulez. Là, je suis actuellement, j'ai divorcé.
Mais est-ce que Sarah, la question aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes suivie?
Pardon?
Est-ce que vous êtes suivie aujourd'hui, Sarah?
Ben, j'ai lui, là, que je suis allée voir mardi passé, c'est tout.
Ah oui, vous l'avez vu une fois.
Il m'a dit, ben oui, on vous met dans des hôpitaux parce que on sait plus quoi faire de vous. Vous rendez compte? Attendez, moi, je sais très bien, j'ai été mariée, c'est vrai, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu plein de choses, même mon chien. Et depuis mon chien, ça fait un an, je redeviens pas bien. Quoi. C'est de la dépression. Pour moi, c'est pas. Il y a des années où je suis très bien. Et là, j'ai perdu mon chien. Je suis malheureuse.
Comme moi, je voulais juste vous dire, comme vous avez l'air accessible à la parole, pouvoir échanger, etc. Même si les choses sont douloureuses, j'aurais tendance à prendre votre exemple et le montrer à vos auditeurs et de leur dire que finalement. Vous avez peut-être besoin d'un médicament comme bouée de sauvetage pour pas trop couler, mais ça réglera pas vos difficultés, vos problèmes. Un médicament ne règle pas, ne fait pas office de psychothérapie. Et je pense que vous avez besoin d'un soutien auprès d'un professionnel qui peut vous aider à construire quelque chose. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'urgence imminente, donc pour moi, vous n'avez pas besoin d'un sauvetage par un psychiatre. Peut-être que vous avez besoin d'un psychiatre pour vous donner un petit antidépresseur ou un anxiolytique, mais ça réglera pas le problème. Et c'est toute la question entre la psychiatrie et la psychothérapie. C'est que moi,
la psychiatrie, c'est l'urgence,
voilà,
on va dire.
Possiblement de la médication également, mais quand vous allez voir un psychothérapeute et que vous lui dites mais ça fait 15 ans que je prends du Prozac, ça fait 15 ans que j'en peux plus de mon boulot et j'en peux plus d'être stressé, j'ai envie de mourir, moi je me dis qu'à ce moment-là, redonner encore plus de médicaments ne règle pas du tout le problème. Et la personne est complètement dépendante finalement du traitement, de sa chimie dans le cerveau, et pour moi on n'avance pas en fait. C'est une façon de maintenir
ça
le mur
pas.
Pour pas qu'il s'écroule. C'est-à-dire on fait rien avec ce truc-là, quoi. Et les gens sont à la merci de la médication.
Après, c'est vrai que ça dépend des cas, parce que il y a des cas pour qui ça peut fonctionner ou aider réellement.
Oui, d'avoir un coup de pouce.
C'est ça.
Mais quand ça fait 15 ans que le problème est toujours
ans,
là,
c'est vrai que là,
ça fait 10 ans que ça va pas avec ta femme, par exemple.
Là, il y a
un moment où
là,
faire quelque chose.
Voilà, par exemple, l'exemple de la dépression. Si la personne est en dépression depuis 10 ans, il y a un gros souci. C'est-à-dire qu'une dépression, ça se traite. Et ça se traite en quelques mois, voire entre 6 mois et 1 an en moyenne. Peut-être moins, peut-être plus, après tout dépend des dépressions. Et le médicament ou l'antidépresseur va venir servir pour certains cas comme une béquille pour pouvoir un peu, voilà, ne pas réussir à un peu à marcher.
Et il la faut.
Et il la faut.
Mais
et la
psychothérapie. Béquille, on n'est pas censé faire une vie avec une béquille.
Exactement.
En fait.
Et la psychothérapie, ça va être, entre guillemets, si je peux faire la comparaison, à une forme de rééducation pour justement se passer de la béquille, pouvoir remarcher convenablement comme avant.
Merci en tout cas, Sarah, de la confiance que vous nous témoignez pour justement avoir décidé de parler sur l'antenne de Beurre FM.
Mais juste par rapport à Sarah, si voilà, ce qu'elle nous dit par rapport à ce psychiatre, ben, il faut juste qu'elle, éventuellement, qu'elle se fasse suivre par un psychothérapeute. Je pense que ça pourrait peut-être un peu mieux l'aider, de manière, comme l'a dit Maximilien, étant donné qu'elle déjà nous a appelé, le fait qu'elle parle, qu'elle puisse, ça c'est superbe. Vous voyez, le fait qu'elle aille voir un psychothérapeute, je pense que ça l'aidera considérablement.
Exactement. Il y a des motifs de souffrance qui vont pas disparaître et qui vont continuer de des motifs de souffrance, et quelle que soit la quantité de traitement qu'elle pourra ingurgiter. Donc ça, il va bien falloir en faire quelque chose pour qu'elle puisse se libérer de tout ça.
Et si ça ne va pas avec un psy, un psychiatre ou un psychologue ou un psychothérapeute, faut pas hésiter à changer jusqu'à trouver justement une personne avec qui on peut se sentir en confiance.
Voilà, Sarah, merci beaucoup. Vous êtes nombreux au standard 01 53 48 3000. Vous pouvez poser vos questions à Ali Habibi et à Maximilien Bachelard dans un instant.
Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes ? Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes ? Composez le 01 53 48 3000. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et puis notez que si vous n'avez pas le temps d'écouter l'émission, vous pouvez les réécouter en consultant les podcasts des émissions sur le site de Beurre FM, www.beurrefm.net. Vous avez un petit icône replay, ou alors vous avez la rubrique émission. Et comme ça, vous pouvez réécouter toutes les émissions que vous n'avez pas eu le temps d'entendre. Fatia est avec nous. Fatia, bienvenue.
Bonjour, j'ai un gros problème. Si vous pouvez m'aider, ça tombe bien. J'ai une sœur qui est bipolaire. Elle a toute tendance à jeter toutes ses affaires à la maison. Il n'y a plus rien. Elle a fait au moins trois fois de suite. Est-ce que ça se guérit ou pas? Allô?
Ah oui, bah, oui, on écoute. Moi, il y a les troubles bipolaires et puis moi, j'ai les billes invitées. Donc, ouais. Ils se regardent, ils se consultent pour savoir qui va répondre. Ouais. Alors.
Donc, c'est
allô,
qui va répondre.
Fatia. Fatia.
Oui, mais Fatia, on vous a, Fatia. Alors, Fatia, qui répond à Fatia?
J'ai une angoisse. J'ai ma sœur, ça fait depuis au moins 3-4 ans. Mais c'est important. Elle jette toutes ses affaires, elle a tout jeté. Elles ne se rend pas compte. Est-ce que ça se guérit ou pas?
Ah bah, guérir le fait de jeter des affaires, ça reste un peu léger pour nous à comprendre. Mais surtout, vous êtes angoissé depuis 4 ans, donc ça fait 4 ans qu'elle jette des choses, c'est ça? C'est un médecin qui a parlé de troubles bipolaires, comme vous dites là?
Je sais pas si c'est bipolaire, mais est-ce que ça se guérit ou pas, ça?
Ah bah, surtout, là, il nous manque un peu des informations pour comprendre un peu votre sœur. C'est-à-dire que moi, je me demande si c'est votre angoisse qu'on va pouvoir aider ou si c'est votre sœur qu'on va pouvoir aider. Parce qu'elle jette des trucs, bon... C'est un peu léger pour pouvoir faire un diagnostic.
C'est pas suffisant pour faire un diagnostic. Et quand vous dites qu'elle est peut-être bipolaire, ça c'est vous qui faites le diagnostic. Et en tout cas, nous, on peut pas le faire par intermédiaire déjà. Et encore moins avec peu d'informations. Une personne qui jette ses affaires, c'est pas forcément un problème en soi.
Alors, et puis un trouble bipolaire, il va falloir qu'on dise un peu ce que c'est, parce qu'apparemment, c'est la grande mode partout. Alors, c'est pas par rapport à vous. Vous compreniez que la bipolarité, c'est un vrai trouble psychiatrique très grave, qui se traduit par un trouble de l'humeur avec des fluctuations très importantes. Les gens sont très très excités, très euphoriques, ce qu'on appelle l'hypomanie, donc ils dorment très peu, mangent très peu, sont très souriants, parlent excessivement vite et plus vite que moi encore, et peuvent arriver quelques jours après dans une phase où ils sont très 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 déprimés, très renfermés sur eux-mêmes, voire ce qu'on appelle mélancoliques. Et pourquoi pas suicidaire. Donc on est dans des manifestations très importantes. Quand vous parlez et qui sont très graves, avec parfois des pertes de conscience, la personne ne sait plus vraiment ce qu'elle fait. Quand vous parlez de votre sœur, elle jette des trucs par la fenêtre, ça reste un peu léger.
Elle a pas dit par la fenêtre.
Voilà. C'est encore pire.
Mais le fait de jeter ses affaires, après il faut essayer de parler avec elle et d'essayer de lui demander tout simplement pourquoi elle fait ça tout d'abord. De lui demander pourquoi elle jette ses affaires. Maintenant, c'est vrai ce que tu disais, c'est-à-dire est-ce que peut-être que pour votre sœur c'est pas un problème de jeter ses affaires et que vous ça vous pose problème qu'elle jette ses affaires ou que ça vous inquiète parce que c'est votre sœur justement que vous l'aimez et que vous vous dites ce comportement est inquiétant et qu'il pourrait peut-être signifier autre chose et vous allez chercher sur internet et vous allez peut-être voir le mot bipolaire passer et vous dites oh là là si ma sœur est bipolaire c'est très grave il faut qu'on la soigne.
Pourquoi c'est un problème qu'elle jette ses affaires?
Non mais justement là.
Fatia. Vous lui avez posé la question de savoir pourquoi, d'abord pourquoi elle le faisait et pourquoi c'est un problème qu'elle les jette.
Elle range, quoi.
Elles seront pas, non, on dirait qu'elles ne seront pas contentes. Dès qu'elle n'est pas bien, parce qu'elle est divorcée, là, elle ne voit pas souvent ses enfants, elle les voit une fois peut-être dans le mois. Et puis d'un seul coup, elle, je ne sais pas pourquoi elle jette tout, tout, tout. Après, elles se rendent compte. Je lui dis, tu sais, t'as jeté ça. Ah non, non, oh, j'ai mis pour les ordures, pour faire du nettoyage. Je dis, t'as tout vidé, t'as plus rien. Et tu plains, tu dis, t'as pas de sous. Et tu achètes tout à plusieurs reprises. Et puis elle rentre à l'hôpital à chaque fois. Moi, je sais plus quoi faire. Et c'est bon, moi. Après, ça veut, dans mon état, moi, ça me fait mal. Parce que je peux pas l'aider plus. Hein.
Bah, je suis pas sûr que vous puissiez vraiment l'aider. C'est-à-dire que les gens, c'est compliqué d'aider les gens. Vous savez, moi, par exemple, pour ma part, je fais en sorte que les conditions soient en place pour que les gens puissent s'aider et avancer. On peut pas changer les gens à distance. Ce serait trop simple, en fait. Donc, tout ce que vous pouvez faire, peut-être, c'est lui dire, tu sais, si tu souffres et si ça va pas bien, peut-être qu'il faudrait te faire accompagner par quelqu'un. Moi, je peux t'accompagner, etc. Mais vous n'allez pas pouvoir faire des choses pour elle. Tout ce que vous voyez, c'est qu'elle semble aller pas très bien, c'est qu'elle voit pas ses enfants, ça la fait peut-être souffrir. Vous savez pas trop pourquoi elle va à l'hôpital, elle va peut-être pas mieux en ressortant. Et peut-être lui mettre des petites graines, et c'est ce qu'on peut faire en attendant qu'elle puisse faire quelque chose.
C'est ça.
Comme quand moi, je rencontre une personne qui me dit, moi, je viens parce qu'on m'a dit de venir. Moi, je la sens pas très à l'aise, je lui en parle, et puis elle disparaît. 6 mois après, elle me recontacte en disant, bon, ben voilà, je suis prêt, j'en peux plus, je suis trop fatigué, il faut que vous m'aidiez. Donc là, apparemment, vous êtes très inquiète pour votre sœur, mais elle a pas l'air non plus de formuler des inquiétudes. Donc c'est ça, moi, qui m'importe, c'est de vous dire qu'on peut pas changer les gens pour eux. On peut toujours pas, et c'est bien d'ailleurs, heureusement d'ailleurs. Bien ça sûr. Voudrait dire qu'on serait tous des pantins manipulables. Il faut qu'elle ait le désir et la motivation de faire quelque chose. Mais peut-être qu'elle a pas vraiment conscience que ça va pas. Et elle a peut-être pas vraiment conscience qu'on puisse faire quelque chose pour elle, en fait. Voilà. Donc, malheureusement, il y a une espèce de temps d'attente où, on peut pas faire sans les gens, quoi.
Voilà, Fatia, merci pour votre appel. Les maladies mentales sont souvent victimes de clichés et les malades sont stigmatisés. Pourquoi c'est important de pas les stigmatiser, les malades ?
Parce que ça va améliorer, enfin ça va augmenter la sensation d'être différent, l'isolement, la sensation qu'on est, qu'on n'a pas à être sur Terre parce que on mérite pas
d'être rejeté.
Autant voilà d'être rejeté. Moins on est bien, moins on comprend ce qu'on a, moins on prend ses traitements également. Si on n'a pas conscience des difficultés qu'on a et si on a envie d'en finir, on a moins tendance à prendre ses traitements. Donc je pense que, comme le disait un petit peu la première personne, c'est la question de pouvoir intégrer des gens qui sont différents de nous. Et pour pouvoir bien vivre sa différence aussi, pour pouvoir accepter, aller sur un chemin d'acceptation, il faut pouvoir aussi ne pas être rejeté par tout ce qui bouge. Il y a un problème d'information déjà. C'est-à-dire que les gens utilisent le mot schizophrénie à tout bout de champ, bipolaire à tout bout de champ, autiste à tout bout de champ, c'est quand même des mots que les journalistes
emploient. Oui, il est autiste, il est schizophrène, et finalement, quand on emploie ces mots-là, on met rarement les bons symptômes, ils sont toujours mal employés.
Exactement.
Bah, ils sont toujours mal employés, et surtout, quand ils sont mal employés, on crée une injustice, déjà par rapport à la définition du mot, et on crée une injustice par rapport aux personnes qui peuvent en souffrir.
Et puis c'est une formulation à type d'insulte, quasiment.
C'est ça.
En disant, il est schizophrène, c'est-à-dire qu'il dit des trucs, il dit son contraire.
C'est ça.
Voilà. Ce qui est quand même pas terrible.
Schizophrène, enfin schizo, c'est qu'est-ce que c'est la schizophrénie ?
Alors, c'est un trouble qu'on dit psychotique, c'est-à-dire que les personnes ont de temps en temps ou continuellement, mais ça peut être de temps en temps, un contact avec la réalité qui est très particulier, très étrange. C'est-à-dire que d'un point de vue sensoriel, ils vont pas être connectés à la même chose que nous, ils vont pas être connectés au son de la même manière que nous, au toucher, au goût de la même manière que nous. Ils peuvent ressentir des choses très étranges pour lesquelles on n'a pas la même conscience qu'eux. Donc on peut ajouter à ça des possibles hallucinations. La personne va entendre des bruits qui n'ont pas été entendus par d'autres personnes. Elle va être prise par des angoisses. Dans la schizophrénie, il y a ce qu'on appelle, par exemple, des angoisses de morcellement. C'est-à-dire que la personne a une sensation que son corps est en train de se séparer en plusieurs morceaux. Vous voyez, là, vous avez une perception de votre corps assez normale. Si je vous dis de vous centrer dans vos sensations au niveau de vos pieds, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Vous la ressentez. On a, par exemple, en service de psychiatrie, des schizophrènes qui vont se mettre à hurler quand vous passez derrière eux. Donc vous sursautez, vous dites, mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là ? Mais en fait, il a une sensation que ses pieds, par exemple, ou son dos, ou ses épaules sont 3 à 10 fois plus grands que la réalité. c'est très compliqué à expliquer, mais la sensation la connexion que la personne a avec son corps n'est pas celle qu'on a habituellement. Donc vous marchez, puis il a l'impression que vous lui marchez sur les pieds, donc il vous insulte à ce moment-là. Il faut savoir que quand on est dans la psychose, tout est cohérent. Mais de l'extérieur, ça ne l'est pas. Vous voyez? On va dire que la principale difficulté quand on est pris dans la psychose, c'est que la perception qu'on a de son corps, du temps et de la réalité est bien singulière.
Et la schizophrénie, ce n'est pas un dédoublement de personnalité.
C'est pas un dédoublement.
Souvent, c'est pour ça que je vous ai posé la question, parce qu'on associe souvent la schizophrénie à des gens qui auraient deux personnalités différentes. Donc.
Exactement. Alors, dans la schizophrénie, il y a une sensation d'impénétrabilité, c'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre où sont les gens, qu'est-ce qu'ils ressentent, c'est pas bien clair. Mais on n'est pas du tout dans une personnalité qui serait double. Ça, c'est assez caricatural. C'est justement les médias américains qui vont beaucoup relayer ça, comme si à l'intérieur de nous, on avait deux ou trois personnes qui pouvaient se contredire. Dans la schizophrénie, on n'a pas ça. On a souvent des gens qui sont très en retrait, très angoissés, avec la sensation qu'ils sont en train, par exemple, de mourir ou de se séparer en plusieurs morceaux. C'est une expérience très particulière à vivre. Et donc la criminalité, comme on disait, est beaucoup moins importante. Et la personne est plus dans un vécu d'angoisse très, 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 très intense.
Et ça n'arrive pas tout le temps. Ce genre de choses que vient de décrire Maximilien, la personne qui souffre de schizophrénie ne va pas le vivre continuellement, non-stop, tout le temps, forcément. Et c'est pour ça que vous avez des personnes qui souffrent de schizophrénie, qui ont une vie équilibrée, qui travaillent, qui ont une famille, qui arrivent à, surtout quand elles sont accompagnées et qu'elles trouvent justement un équilibre par rapport à ça, qui arrivent à avoir une vie dite, entre guillemets, normale.
Alors, qu'est-ce qui relève de la psychothérapie et de la psychiatrie ? Psychothérapie, qu'est-ce que la psychothérapie va prendre en charge ?
La psychothérapie, c'est surtout par rapport à des demandes où on peut avoir certains objectifs assez précis qu'on essaye d'atteindre. Ça peut être des choses assez particulières comme... ou assez anodine comme quelqu'un qui vous dit j'aimerais avoir un peu plus confiance en moi ou je n'arrive pas à parler en public ou j'ai des tocs. Vous voyez que les tocs c'est un trouble.
Les tocs ce sont donc les
troubles obsessionnels compulsifs. Mm-hmm. C'est donc c'est un trouble mais qui peut se travailler, se traiter très bien en psychothérapie sans aucun souci.
Quelqu'un qui va aller vérifier 10 fois s'il a éteint le gaz ou l'électricité, c'est un TOC, c'est ça ?
Oui, Philippe, vous avez un TOC. Mais est-ce que vous en souffrez, c'est la question.
J'ai pas le gaz à la maison.
C'est ça qui est encore plus angoissant, c'est qu'en plus vous vérifiez le gaz et il y en a pas, Philippe. C'est ce qu'on essaie de vous dire depuis 3 quarts d'heure.
C'est injuste de me balancer comme ça en direct. Encore si on avait été enregistré, j'aurais fait disparaître ce passage-là. Mais là,
c'était un TOC et peut-être qu'on est dans quelque chose de plus psychotique.
Psychotique que ça, oui. Mais après, vous savez que dans le TOC, vous avez plein de gens qui ont des TOC et qui n'en souffrent pas du tout et la vie va bien, tout va bien.
Oui, c'est-à-dire que la question, c'est de savoir justement est-ce que ça leur pose problème et est-ce que vous avez besoin d'aide. Quand on est dans la psychiatrie, si on reste sur un truc basique, dans la psychiatrie, vous êtes démuni, vous savez plus quoi faire, vous êtes en train de perdre des pédales, vous avez plus d'accroche sur votre vie. Donc on va vous aider à vous remettre un peu sur terre et à pouvoir vous reconnecter à ce que vous pouvez faire. Quand on est dans la psychothérapie, on est plus dans l'idée de construction. Donc soit la personne se dit j'ai besoin qu'on m'aide à faire quelque chose pour moi, pour pouvoir reconstruire, ou soit je demande à ce qu'on fasse quelque chose pour moi, notamment avec la question de l'hypnose, où il y a l'idée que le thérapeute va pouvoir remettre en route certaines choses à l'intérieur de moi et ça va aller mieux. Donc dans la psychothérapie, la personne est censée se retrouver un peu au centre de sa vie et d'essayer de nouvelles choses, construire, penser, réfléchir, faire des liens. Et donc, elle est en train de travailler un peu les motifs qui font sa souffrance. Dans la psychiatrie, c'est « j'ai mal, retirez-moi ça ». En gros, je suis déprimé, donnez-moi un traitement, parce que là, moi, je dors plus, je mange plus, j'arrive plus à me concentrer. Vous voyez, on est plus là-dedans.
Et le fait d'y penser ou de chercher des solutions ne va pas arranger les choses si j'ai un vrai trouble psychiatrique, vous voyez. Là, il faut une intervention.
Voilà, quand quelqu'un a des hallucinations, il est en plein délire, on va pas commencer une psychothérapie. On va faire en sorte que ses angoisses se calment, qu'il puisse redormir, qu'il se sente plus agressé, qu'il ait plus envie de tuer quelqu'un ou qu'il soit plus sur le qui-vive à sentir qu'il est écouté, mais qu'il puisse se reconnecter un peu à la réalité. Donc, pour faire de la psychothérapie, il faut quand même que les gens soient un minimum connectés à la réalité.
Il faut que le terrain soit quand même plus calme.
Oui. Et vous avez deux possibilités. Soit vous dites, j'ai besoin de construire quelque chose, soit vous venez parce que vous avez un symptôme. Par exemple, je viens vous voir parce que j'ai une paralysie de la jambe et je suis allé voir 3 médecins. On a fait scanner, IRM, tout. Potentiel évoqué, tout va parfaitement. J'ai rien du tout, mais bizarrement, j'ai ce symptôme-là. Et puis on se rend compte au bout d'une heure que ce symptôme il apparaît très précisément dans des moments particuliers. Voilà. Donc là, vous voyez, la personne ne vient pas pour construire, elle vient parce que elle est, comment dire, alertée de manière énigmatique par un symptôme, quelque chose qui bloque. Et elle met l'hypothèse que peut-être il y aurait quelque chose dans sa tête qui bloquerait en fait.
Bien, Maximilien, on vous soutient dans votre remise en forme.
Oui, exactement.
Et dans votre petit Merci. Marathon personnel.
Ali va me soutenir
de
à
loin.
Fond.
Voilà. Ah oui, non, à fond, de loin. Voilà.
La Dream Team revient le mois prochain. Et donc, demain, c'est Nadia qui sera avec nous. Très belle journée. Très beau jour férié sur Beurre FM.